cette descente aux enfers du Christ, qui est quand même quelque chose d'assez bouleversant. On pourrait même dire que Jésus a choisi de naître en vue de mourir quelque part, pour rejoindre l'humanité au tréfonds de la mort. La croix était au bout de la souffrance possible, mais c'était encore pas suffisant pour la rédemption. Il fallait aller jusque dans l'Hadès, dans les enfers, pour aller chercher la mort sur son propre champ. Donc, dans la passion du Christ, il y avait non seulement le fait de mourir, mais le fait d'être mort que le Christ a voulu vivre jusqu'au bout.
L'autre mystère du samedi saint, c'est bien sûr celui du silence de Dieu.
Dieu est silencieux, le monde semble en privation de Dieu, et le silence de Dieu est comme la révélation suprême, c'est la parole ultime de Dieu. Il rentrera dans cette solitude extrême de l'humanité, qui est justement la mort, dans ce moment où finalement l'homme se trouve seul, dans une angoisse incroyable. Alors là, il y a un mystère inouï qui est ce grand silence. Je crois qu'au cœur du samedi saint, il y a vraiment un Dieu qui vient rejoindre l'angoisse. Le cardinal Ratzinger disait justement à l'époque une chose extrêmement intéressante comme parabole. Imaginez un enfant qui est seul, perdu dans une forêt comme ça, la nuit, et qui doit avancer au milieu du bois avec une peur absolument non contrôlable. Tous les raisonnements qu'on aurait pu lui faire pour lui dire qu'il n'y a pas de danger n'arriveront jamais à enlever cette peur qui lui tient aux entrailles. Et cet enfant ne pourra jamais être rassuré par une seule parole. Il va falloir une présence qui le rassure. Et il dit c'est un peu l'humanité qui se trouve face à la mort. Jésus vient investir de cette présence ce Sheol, ce lieu de la mort, cette expérience où l'on est seul dans une solitude absolument non rejoignable, et il va venir nous rejoindre à ce moment-là pour apaiser cette angoisse, pour la transfigurer en une espérance.
Est-ce que vous diriez que l'expérience douloureuse parfois de ce silence de Dieu, est-ce que cette expérience est d'une certaine manière fondatrice pour le croyant ? Est-ce que, en quelque sorte, on a besoin finalement de cette immersion dans l'obscurité ?
Je pense qu'il y a deux choses. L'obscurité existe en elle-même déjà. Elle existe par cette angoisse métaphysique de la mort, par cette solitude que chacun éprouve, par un monde où Dieu semble absent justement. Et puis, en même temps, il y a une sorte de purification passive que Dieu veut opérer en nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut nous conduire à cet acte de foi de Kardinal Ratzinger quand il parlait de ce monde qui vit l'angoisse du samedi saint, comparé un petit peu à cette scène biblique où la barque est battue par les eaux dans la tempête du lac de Tibériade, et Jésus arrive en marchant sur les eaux, ils le prennent pour un fantôme, et finalement, ils n'ont pas du tout la foi. Et ce que dit le Kardinal Ratzinger, c'est-à-dire que finalement, la nuit du samedi saint est un lieu où la foi doit s'exercer, où l'espérance doit s'exercer de manière étonnante. Et il osait même dire que quand la tempête sera passée dans ces drames que vit l'Église aujourd'hui et que vit ce monde, nous en arriverons peut-être à nous rendre compte combien de stupidité il y avait dans notre peu de foi. Voilà, donc je crois que Dieu veut aussi nous faire éprouver cela pour nous attacher à lui, non de façon affective ou sensible, non de façon intéressée ou utilitaire, mais par amour pour lui. Et pour arriver à cette pureté de l'amour, il faut une purification qu'on appelle en langage spirituel une nuit de la foi, une nuit des sens, une période de désolation, pour reprendre les mots ignatiens, ou de voie purgative, pour reprendre les mots de l'école plutôt dominicaine. Il y a donc un samedi saint dans lequel il faut descendre, il faut accepter. On le descend dans l'humilité, dans la pauvreté. C'est pas de manière triomphante que le Christ descend aux enfers. C'est-à-dire que le cadavre de Jésus qui repose au tombeau, puisqu'il n'y a plus d'âme, et quand un corps n'a plus d'âme, ce n'est plus un corps au sens philosophique du terme, eh bien le cadavre de Jésus qui repose au tombeau est encore habité par la divinité. Et ça, c'est une espérance invincible. Depuis ce samedi saint, il n'y a plus de lieu de l'humanité, y compris les ténèbres des enfers, de la mort, là où les gens désespèrent, qui ne soit pas le lieu où Dieu n'est pas visité.
Dans sa grande homélie pour le samedi saint, saint Épiphane de Salamine au IVe siècle écrit « Un grand silence se fait sur toute la terre, le roi sommeille. Le roi dort, Dieu dort, exactement comme dans cet épisode que vous avez décrit des évangiles où Jésus dort à l'arrière de la barque alors qu'elle est battue par les vagues et que les disciples sont effrayés. Dieu dort, est-ce que ça veut dire que nous sommes, nous, invités à le réveiller, en quelque sorte, à provoquer quelque chose?
Je pense qu'il faut déjà, avant même de vouloir le réveiller, parce que lui sait quand il doit se réveiller et sait quand il doit réagir, il s'agirait peut-être de prendre conscience de sa présence. Et là, j'allais dire que Marie va nous y aider, parce que le grand silence du samedi saint, c'est en fait le grand temps de Marie. Marie porte en elle-même, au cœur de cette nuit, l'espérance de l'humanité. Il y a différents courants mystiques qui expliquent cela. Certains disent que Marie n'avait que les paroles de l'Ancien Testament pour s'accrocher, parce qu'elle vivait aussi cette nuit de la foi totale, ou les paroles même de son fils qui annonçait sa résurrection, le pouvoir de se dessaisir de sa vie et le pouvoir de la reprendre, qui annonçait que le troisième jour elle ressusciterait, lui était même comme obscurci. Et il lui restait qu'une parole, celle du psaume 15, qui dit « Ne laissera pas ton saint voir ou connaître la corruption ». Et donc Marie, appuyée sur cette parole, va porter, alors que tout semble fermé, que la lourde pierre avait été roulée devant le tombeau, porte l'espérance de toute l'humanité. Et le Cantique des Cantiques dit « Ne réveillez pas mon bien-aimé avant l'heure ». Eh bien, je crois qu'il y a aussi cette attente mystérieuse qui nous est demandée de vivre, d'attendre l'heure du Seigneur. Tout l'évangile de Saint Jean est centré autour de cette heure. À plusieurs reprises, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et à un moment donné, il va annoncer que cette heure est enfin venue, l'heure centrale de passer du monde au Père, de faire passer l'humanité de la désobéissance ou de l'orphelinat en quelque sorte, ou de la rébellion à l'attitude filiale. Et cette heure, on l'accueille avant même de vouloir la provoquer, car elle n'est pas dans notre pouvoir, c'est une œuvre de la grâce. Et donc la grâce va venir nous saisir, nous empoigner. Et je crois que tout le travail de la grâce implique de notre part une réceptivité, une patience, avec un acte de foi fondamental, c'est que le Christ est là, et que dans cette barque, ballottée par les vents, par la tempête, eh bien, il est réellement présent, et qu'à son heure, il se réveillera, et que tout prendra sens à ce moment-là. Donc ce serment d'Épiphane de Salamine est extraordinaire, effectivement, ce grand silence qui règne sur la terre. Certains m'ont dit que le lion dort, le lion de Juda est assoupi, est endormi, et que ce réveil va venir, et c'est l'agneau qui va se manifester, l'agneau triomphant qui remporte la victoire.